monde. Découvrez les dernières tendances en matière de tatouage. Concours, spectacles d'humour, cracheurs de feu, DJ et encore plus. Nouveauté cette année, espace food truck avec animation. Du 22 au 24 août à Expo Cité. Billets au quebectatouchow.com. Présenté par Paradox Tatouage.
L'achat de ton prochain camion pour maximiser ton temps, ton argent, avec un service après-vente personnalisé,
c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. C'est l'événement prix employé chez Germain Chevrolet. Payez le prix coûtant sur nos Silverado ou Sierra 1500 et 2500.
Oui, oui, le même prix que nos employés.
Ou encore, profitez de notre vaste gamme de VUS
avec des offres incroyables en location.
Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec au juste prix, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond.
Grande vente sous la tente chez ADM Sport. Ce samedi et dimanche, à l'entrepôt de liquidation ADM Sport, épargnez de 40 à 70% sur une large gamme de vêtements, pièces et accessoires pour moto et motoneige. ADM Sport, tout ce que tu aimes. Sur le boulevard Amel.
Ready! Procurez-vous votre forfait pour le tailgate Radio X.
Radio X.
Du Rouge et Or Football.
Football!
Pour le match contre les Redbirds de McGill le samedi 30 août. Pour 45$ plus taxes, le forfait comprend ton billet pour le match, une bière de Ralbok, une pointe de pizza de Stratos Pizzeria, un hot dog offert par Rêve Sportif, un demi-sandwich smoked meat de Brin Smoked Meat, un morceau de poulet frit Dixili, une bouchée sucrée d'Équilibre Traiteur et une dégustation de la distillerie Stade Aconé. Achetez votre forfait au boutique.radiox.com. Faites vite, quantité limitée.
Radio X. Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec. Yo!
Hey, c'est Jordan. Dans la Ligue Frontier, les Capitales reviennent de leur périple à Brockton. Hier, on a dû jouer un double vu qu'avant-hier, la pluie avait pris le contrôle de la place. Pas un problème pour la troupe de Pat Scalabrini. Encore une fois, Pee-wee aura besoin de son gros balai. Balayage complet et victoire contre les Rocks 6-1 et 4-2 hier. Good job. Maintenant, direction Stade Canac pour les deux dernières séries à la maison de la saison. Trois matchs face à Trois-Rivières ce week-end et ça débutera dès ce soir, 19h07. Dans la LHJMQ, un match des remparts à Sainte-Foy. Les Diables Rouges croiseront le fer contre le Drakkar de Bécomo au centre de glace Intact Assurance. Ça débutera à 19h. Et demain, ce sera à Saint-Marc-des-Carrières contre les Tigres. C'est un week-end chargé, ça! Et dans la Major League Baseball, 6 jours de match pour les Blue Jays de Toronto. Après un petit break suite à leur série perdue contre Pittsburgh, direction maintenant Miami. Shane Bieber sera le lanceur partant pour les Jets Bleus. Le duel Blue Jays Marlins débutera à 19h07 au Marlins Park. Let's go!
Pour plus de sport, ici BPM Sport.
BPM Sport.
100.9. Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh! We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bienvenue dans cette autre édition des Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Nick Cloutier à la barre, mais celui que vous voulez entendre dans les Radio X-Files, c'est Christian Page. Bon vendredi, Christian.
Bon vendredi, Nick.
Donc, on revient à la formule des Radio X-Files comme les auditeurs la connaissent, c'est-à-dire avec des thématiques. Et là, cette semaine, on va se concentrer sur les ovnis, entre autres sur les extraterrestres.
Oui, effectivement. Donc, OVNI extraterrestre, ouais. Ou tout sujet que je dirais un peu, sans mauvais jeu de mots, qui est un peu satellite à ce phénomène-là, donc oui. Fera l'objet de nos discussions. Et comme je le fais avec chacune de ces thématiques, j'ai sélectionné 4 actualités. Et donc, on va tourner autour de ces actualités, on va les commenter, on va échanger autour de ces actualités. Et puis, la semaine prochaine, ce sera théorie du complot et parapsychologie, ensuite les mystères de l'histoire. Et notre quatrième semaine, alors là, encore une fois, j'invite les gens, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vous écrivez sur le site des Radio X-Files. Et puis, ces questions-là, on va essayer d'y répondre, d'y regrouper, d'essayer d'y répondre du mieux que l'on peut.
Oui, puis vous pouvez le faire aussi via la messagerie en tout temps au 88 670 9098. Voilà.
Oui, parfait.
Donc, allons-y. On a une heure, ça passe extrêmement rapidement, surtout en radio, le temps est compté.
Oui. Donc, et surtout avec moi, qui est très verbomoteur.
Ah, mais c'est toujours...
Je vais essayer de me contenir un peu.
C'est toujours très, très, très intéressant. Fait que c'est un, moi, je te laisse aller, puis si j'ai des questions, je te coupe. Voilà.
Parfait. Donc, ma première actualité, dont je t'ai envoyé un peu le planning cet après-midi, je l'ai intitulé « Quatre types d'extraterrestres ».
Déjà, j'ai sursauté.
Et voilà, ça, on sursaute. Bon, en fait, pourquoi quatre types d'extraterrestres? Il faut quand même le dire, hein, ça s'est passé il y a quelques jours maintenant, à peu près un mois maintenant, il y a eu aux États-Unis, il y a, je te dirais, depuis maintenant 2022-2023, de manière périodique, on en était, je pense, la quatrième grande audition au Congrès pour parler des ovnis. Et cette démarche, on parle toujours un peu d'un comité qui est biparti, mais en réalité, c'est majoritairement composé de républicains. Et quand on dit le Congrès, puis je l'ai mentionné encore la semaine dernière, il faut toujours faire attention parce que le Congrès, c'est grosso modo 400 élus, alors que là, ici, on parle d'un petit groupe de gens... qui ont été réunis autour notamment de Anna Paulina Luna, qui représente un groupe qui s'appelle le House Oversight Task Force et qui a été chargé par le président Trump pour faire la lumière ou rendre public des dossiers qui sont considérés comme secrets ou à tout le moins qui ont fait l'objet de théories du complot. On parle par exemple à l'assassinat de JFK, l'assassinat de Robert Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King et bien sûr la question des ovnis. À retirer de cette liste le fameux dossier Epstein. Il ne fait pas partie de la liste.
Pas encore, mais...
non, les dossiers Epstein c'est plutôt chaud.
Oui.
Donc, ils sont réunis autour de Mme Luna. Et qui et on parle ici d'à peu près 7, 8, 10 personnes. C'est quand même très limité. Et au moment où ces réunions-là du Congrès ont commencé, comme je l'ai mentionné, c'était 2022-2023, il y avait quand même énormément d'intérêt autour de cette histoire d'OVNI. Hein. Puis d'abord, quand Mme Luna a fait partie de ses premières rencontres, c'était avant l'élection de Donald Trump, mais elle représentait le Parti républicain. Donc, elle était en place. À ce moment-là, le fameux House Oversight Task Force n'avait pas encore été créé. Hein. Les premières auditions étaient essentiellement tournées vers la question des ovnis. C'était une demande qui avait été faite par une représentante de la Floride, Mme Gillibrand, qui est... Là, je vais faire un peu un cours historique de ça, là, pour que les gens comprennent un peu comment tout ça s'est mis en place. Faut savoir qu'en 2022, le département de la Défense, interrogé par le Congrès, puis encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, le département de la Défense a mis en place un premier organisme étatique pour enquêter sur les ovnis, le premier en 50 ans pratiquement, là, qui était le bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. C'est pas très sexy de sortir ça au milieu d'une conversation, mais bon, l'acronyme, c'est ARRO. Et cet organisme, donc, devait enquêter sur les observations d'ovnis et tout ça dans la foulée d'une montée de l'intérêt public pour la question des ovnis après la diffusion en 2017 de vidéos qui avaient été tournées apparemment par des représentants, par des militaires à bord d'avions de chasse durant des opérations.
Oui, ça a circulé beaucoup, donc, ces informations-là, qu'il y a des militaires.
Ouais, c'est fameux.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, ça rend l'affaire plus crédible, hein, des images tournées par des pilotes de chasse et tout le reste. Donc, on avait mis en place, on voulait faire la lumière. Mme Gillibrand avait demandé au Congrès américain de faire la lumière sur la question des ovnis. Et à ce moment-là, donc, on a mis en place ce petit comité. Donc, il y a eu des premières auditions qui ont eu lieu. Et puis ensuite, avec l'arrivée de Donald Trump en début d'année à la présidence, ben là, il a officiellement donné un mandat à Mme Anna Paulina Luna, qui faisait partie de ce groupe-là, qui représentait la Floride en tant qu'élue républicaine. Et il l'a chargée, donc, d'élargir un peu le mandat, de ne pas seulement s'intéresser à la question des ovnis, mais également des dossiers, des enquêtes qui avaient alimenté les théories du complot, dont, comme je l'ai mentionné, l'assassinat du président Kennedy. Ouais. Et d'ailleurs, dans le cas du président Kennedy, les derniers documents qui étaient encore gardés confidentiels ont été rendus publics il y a quelques mois maintenant, là, 3 ou 4 mois. Et puis là, évidemment, je comprends que les théoriciens du complot pourront toujours dire qu'il doit exister quelque part un dossier qui a échappé à la surveillance. Là. Mais jusqu'à maintenant, tous les dossiers sur l'assassinat du président Kennedy, autant ceux de la commission Warren, hein, après l'assassinat du président Kennedy en 1963, là, on est en novembre 63, il y a très rapidement son successeur par intérim, le président Johnson, va demander une enquête sur l'assassinat du président et il va charger un juge de la Cour suprême, Earl Warren, de mener cette enquête, d'où le nom, la fameuse commission Warren, qui est toujours en fait associée à l'assassinat du président Kennedy. Et un an après, la commission Warren dépose son rapport en disant, après avoir auditionner plein de témoins, avoir regardé les faits, tout ça, on arrive à la conclusion que le président Kennedy a été abattu par un tireur isolé, un tireur solitaire, qui était Lee Harvey Oswald, qui se tenait au 6e étage du fameux dépôt de livres du Texas, des livres scolaires du Texas. Quand je dis le 6e étage, je fais toujours un peu parce que j'y suis allé à plusieurs reprises à cet endroit-là. Oui. C'est le 6e étage, mais en fait, c'est le 5e si on considère que le 1er étage est le rez-de-chaussée. Là, donc, on est au 6e niveau, mais c'est le 5e ou le 6e étage. C'est ça, dépendamment de comment on le définit. Mais bref, la commission Warren dit, ben voilà, c'est un tireur isolé qui se traînait derrière une fenêtre du dépôt de livres qui a tiré sur Kennedy. Il a tiré 3 balles, dont 2 ont atteint le président, une à la gorge et une autre à la tête. Et là, ben évidemment, des gens, immédiatement après le dépôt de la commission Warren, des gens ont contesté ces conclusions. D'autant plus, faut-il le rappeler, hein, Lee Harvey Oswald, l'homme qui avait abattu le président, a été lui à son tour abattu 2 jours plus tard par un tenancier de bar de Dallas, un certain Jack Rubenstein, ou Jack Ruby pour faire court. Et Ruby a été immédiatement immobilisé par les forces de l'ordre. Il a eu un procès. Il a été condamné à mort pour avoir assassiné Lee Harvey Oswald, mais il est décédé en prison là, avant que la sentence soit exécutée. Donc, mais ça n'a jamais convaincu tout le monde, hein, cette idée-là. Il doit y avoir d'autres tireurs, etc. Donc, les théories du complot ont foisonné depuis le milieu des années 60. Et puis, donc, on avait, au fil du temps, il y avait eu la commission Warren, il y avait eu une autre commission dans les années 70, le bureau, la commission d'enquête sur les assassinats qui s'était tenue au Congrès, qui avait été demandée par la Chambre, qui avait conclu également que Kennedy avait probablement été assassiné par Lee Harvey Oswald. Quoique, dans le cas de cette commission des années 70, on avait quand même ouvert la porte à la possibilité d'un complot. Il faut quand même le préciser. On avait ouvert la porte parce qu'on croyait, on avait beaucoup tablé sur une espèce de preuve acoustique. Il y avait un enregistrement que l'on croyait être celui d'un motard de la police qui se tenait sur Dealey Plaza, là où l'assassinat a eu lieu. Et dans le microphone, on entendait comme 4 bruits, hein, donc qui semblait dire que 4 détonations. On sait que Lee Harvey Oswald n'a tiré que 3 balles. Oui. Donc s'il y a un 4e coup de feu, il y a forcément un autre tireur. Mais et c'est la raison pour laquelle ce comité dans les années 70 avait conclu qu'il y avait On reconnaissait que rien ne permettait de conclure un complot. Mais le complot, on ne pouvait pas l'éliminer ou l'éclipser comme l'avait fait la commission Warren, puisqu'on avait cet enregistrement qui semblait effectivement démontrer qu'il y avait un 4e coup de feu qui avait été tiré. Mais avec les années, on a pu démontrer que cet enregistrement provenait, oui, d'un motard de la police de Dallas, mais il ne se trouvait pas à l'endroit où le président a été assassiné et la longueur d'onde sur laquelle avait été obtenu cet enregistrement-là, ou la communication n'était pas la communication qui était pour les urgences, comme étaient branchés les services de police du centre de Dallas. Okay. Donc, cette preuve acoustique a été éliminée. Et si on élimine cette preuve acoustique, ben on en revient effectivement à la conclusion de la commission Warren. C'est 3 coups de feu, un seul homme, puis voilà. Au moment où on se parle, là, je fais un détour, mais c'est quand même important de le remettre un peu dans le cas. C'est toujours important de le remettre dans le contexte. Donc, avec les années, on a rendu public plein d'informations sur la mort du président Kennedy. On avait plein de dossiers, ceux du FBI, de la CIA, des services de renseignement. Et puis, certains dossiers étaient considérés comme plus sensibles. Donc, ils avaient été gardés au secret. En théorie, ces dossiers auraient dû être publiés aux alentours de 2040, 2045, dans ces alentours-là, à la la demande de la famille Kennedy, faut-il le préciser. Et puis, éventuellement, avec la sortie du film... je sais pas, t'es peut-être un peu jeune, mais bon, un film sorti au début des années 90, qui était JFK d'Oliver Stone, qui a beaucoup marqué. Donc, le film d'Oliver Stone, sur le plan historique. Et là, ne tirez pas sur moi, là, je suis le messager, moi, là. le film de la vie des historiens est un très, très mauvais film. Hein, je me rappelle avoir lu des critiques, notamment des historiens spécialisés dans l'affaire Kennedy, qui avaient dit à propos du film d'Oliver Stone que Oliver Stone ne présentait pas une version de l'histoire, il réécrivait l'histoire. Donc, il faisait concorder des faits qui s'étaient jamais produits ou organisait les témoignages en fonction de ce qu'il voulait présenter au public. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées, t'sais. Donc, on avait beaucoup critiqué ce film. Néanmoins, le film a eu quand même un effet important. C'est que ça, on peut dire que le film a ramené sur le devant de la scène l'assassinat du président Kennedy et a intéressé toute une nouvelle génération qui n'était pas là en 1963 ou 64. Et à ce moment-là, plein de demandes d'accès à l'information ont été adressées au département de la justice aux États-Unis et aux archives nationales pour avoir accès à ces fameux dossiers. Et puis, finalement, par un travail de coulisses, on a conclu, c'est l'administration de Bill Clinton qui a conclu ça, on a conclu qu'on allait rendre public les dossiers sur l'assassinat de Kennedy. On n'attendrait pas en 2045, mais tous ces dossiers allaient être publiés à partir de 2017 et au final jusqu'en 2025. Donc, durant cette période, tous les dossiers allaient être rendus publics. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, à partir de 2017, on a commencé à rendre public tout un ensemble de dossiers. Et puis, il y a quelques mois, le président Trump... en chargeant Mme Anna Paulina Luna de ce House Oversight Task Force, lui a demandé de rendre public les derniers dossiers qui restaient classés. Et ce qu'on a fait.
Pourquoi, pourquoi on a décidé que c'était seulement qu'à partir de 2017 et que ça allait s'étaler jusqu'en 2025? Ouais.
Très bonne question, parce que cette question-là, c'est la question que se posent les gens, les théoriciens du complot. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi est-ce que ces dossiers-là étaient-ils secrets? Il faut savoir que les services de renseignement n'ont pas colligé de l'information que sur l'assassinat du président Kennedy, par exemple. Il y avait de l'information qui passait un peu, qui était un peu comme un coulage d'un dossier à un autre. Donc, on apprend dans ces dossiers qui ont été rendus publics récemment, et on comprend pourquoi les services de renseignement voulaient les garder secrets si longtemps. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a des noms des gens, des informateurs, des noms, des numéros de téléphone, des adresses qu'on veut garder. Donc, évidemment, les gens pourraient dire qu'une commission de censure pourrait effacer les noms, les adresses. Mais bon, la commission de censure aux États-Unis, j'y suis déjà allé, hein, c'est des millions de documents qui doivent être passés au crible et on doit retirer les noms, les adresses, les numéros de téléphone. Puis il y a à peu près deux personnes qui font ça. Hein, puis ils ont devant eux des milliers, voire des millions de documents à relire.
Ils n'auraient pas fini.
Ouais, c'est ça. Donc, ils ont du boulot jusqu'en 2825. Là. Bon, donc, c'est un peu aberrant. Donc, ces dossiers-là étaient gardés secrets. Puis là, maintenant qu'ils sont rendus publics, on comprend que je te donne qu'un seul exemple. Hein. Parmi des échanges entre les services de renseignement, on s'est dit, on avait déjà dans le collimateur ce fameux Lee Harvey Oswald. Hein. Il était déjà fiché dans les services de renseignement pour la simple et bonne raison que c'était un militaire américain qui avait fait défection, qui est allé vivre en Union soviétique pendant quelques années. Il est rentré au pays avec une épouse russe soviétique. Donc, on comprend qu'à l'époque, c'est la guerre froide et il y a une espèce de chasse aux communistes. Hein. Donc, on se demande, c'est qui ce gars-là, ce Lee Harvey Oswald, qui quitte l'armée américaine, qui fait défection en Russie, qui va s'installer là-bas, qui revient aux États-Unis avec une épouse soviétique. Est-ce que c'est un agent dormant du KGB, un agent dormant des services de renseignement soviétiques? Donc, il y a des questionnements là, qui se posent. Donc, lorsque Lee Harvey Oswald revient aux États-Unis, il arrive par la Nouvelle-Orléans. Donc, à ce moment-là, il y a déjà un peu, pour utiliser l'expression anglaise, là, il y a un drapeau rouge, là, un red flag qui est levé. Là, on se dit, hop, c'est qui ce gars-là? T'sais? Ensuite de ça, on commence à le suivre. On voit qu'à la Nouvelle-Orléans, par exemple, il va flirter avec les groupes communistes. Hein? Et d'ailleurs, c'est un communiste qu'on peut presque dire un peu zélé. Hein? Il va d'ailleurs se distancier des groupes pro-communistes de la Nouvelle-Orléans parce qu'il trouve ces groupes beaucoup trop, disons, un peu trop à l'américaine. Okay. Hein? Oui. C'est un peu comme s'ils avaient mis de côté toute la philosophie du communisme. Ça, ils disent, ben là, voilà, c'est quoi ça, cette idée-là de... En fait, ces gens-là parlent russe, sont des russophones, mais en réalité... ce sont des Américains. Donc, c'est un peu ce qui le choque un peu. Donc, il est un peu zélé. Il se fait remarquer pour ça, là, encore une fois. Un nouveau red flag qui est levé par les services de renseignement. Étrange, ce gars-là, un peu zélé quand même, tu sais. Et ensuite, donc, on le suit. Et à un moment donné, justement, quelques semaines avant l'assassinat contre le président, il va se rendre au Mexique, il va demander un visa pour se rendre à Cuba. Au Mexique, on lui dit non, vous pouvez pas obtenir un visa pour Cuba, il faut d'abord avoir l'aval des autorités soviétiques. Et donc, finalement, ça va lui être refusé, il doit rentrer aux États-Unis. Mais cette information-là, elle est issue des services de renseignement américains. Un Américain qui s'en va au Mexique, demande un visa pour Cuba et qui se fait refuser son entrée parce que les autorités soviétiques refusent. Il y a beaucoup de communistes là-dedans. Là. Il faut se rappeler aussi que 1963, là, Cuba, là, c'est un peu la menace communiste aux portes des États-Unis. C'est l'allié de Moscou, c'est l'histoire des missiles de Cuba. Ouais. Quelques mois plus tôt, blocus, hein, qui avait pratiquement le blocus qui avait été demandé par Kennedy. Donc, on est dans une situation qui est excessivement tendue et ce Lee Harvey Oswald agit étrangement. Donc, il est normal qu'il soit dans le collimateur des services de renseignement. Mais en même temps, ce que l'on découvre dans ces documents, c'est que de son côté, les services de renseignement américains, la CIA en tête, songeaient à monter une espèce d'organisation, de groupe, un commando qui irait à Cuba pour assassiner Fidel Castro. Et ce commando assassin qui allait assassiner Fidel Castro aurait l'opération, s'appelait Opération Mangouste. Donc, dans les documents, on voit que les services de renseignement américains s'interrogent. Pourquoi est-ce que Lee Harvey Oswald va-t-il au Mexique pour demander un visa vers Cuba? Serait-il au courant de l'opération Mangouste? Est-ce qu'il y aurait eu parmi les services de renseignement américains des traîtres ou des fuites qui auraient laissé passer de l'information à propos de l'opération Mangouste et qu'éventuellement ce Lee Harvey Oswald voudrait se rendre à Cuba pour informer les proches, soit le président Castro ou les proches de Castro, qu'une menace d'assassinat pèse sur lui de la part des services de renseignement américains. Et on comprend donc à ce moment-là, ces documents-là sont excessivement sensibles. Et même après l'assassinat du président Kennedy, tout ce qui touchait l'opération Mangouste, et pas seulement ceux-là, là, je mentionne ceux-là parce que les gens qui nous écoutent sont capables de bien comprendre le niveau de sensibilité de ce type de documents, mais d'autres opérations semblables ont filtré à travers les échanges. Donc on a des documents qui parle de Lee Harvey Oswald, qui parle de l'assassinat du président Kennedy, mais qui en même temps parle d'opérations parallèles, secrètes, qui pourraient mettre dans l'eau chaude les services de renseignement américains. Donc ces documents-là vont être classés top secret. Non pas parce qu'on cache de l'information sur l'assassinat du président, mais parce qu'on veut cacher d'autres opérations alternatives qui sont de côté. Bon, c'est très sensible.
Oui, c'est ça, information très, très sensible, oui.
Donc, les derniers documents qui ont été rendus publics ces dernières semaines, ces derniers mois, par le biais de cette House Oversight Task Force, dont Mme Luna dirige, qui sont techniquement les derniers documents sur l'assassinat du président, ne révèlent strictement rien à propos d'un complot. Rien du tout, là. Ils ont été, dès leur publication, ils ont été passés au crible par des experts de l'affaire Kennedy. On a analysé les documents. Et puisqu'on découvre effectivement qu'il y a des choses qui sont un peu louches dans les actions des services de renseignement à l'époque, mais d'être là en enfer, des agents d'un complot visant à assassiner le président, il n'y a strictement rien qui va dans ce sens-là. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui a fait plaisir aux amateurs de complot. Alors, on comprend que leur discours, c'est oui, mais bon, peut-être que le vrai document ou le vrai dossier a disparu, les vrais documents qui prouvaient le complot contre le président ont été détruits, etc. Mais dans la réalité, tous ces documents, puis on parle quand même de plus de 5 millions de documents, là, c'est 5 millions de documents totalement qui sont aujourd'hui accessibles à la librairie du Congrès, non, à la bibliothèque du Congrès, et qui ne va jamais, mais aucun de ces documents-là ne vient supporter la théorie du complot. Elle est évoquée, mais à chaque fois qu'un agent a évoqué la théorie du complot, l'enquête qui a suivi a mené à un cul-de-sac, et puis on s'est dit, non, finalement, ça mène nulle part, donc c'est pas ça.
Donc ça a été... on a quand même pris le temps d'étudier certaines théories du complot, puis d'enquêter là-dessus.
Absolument. Oui, oui, absolument. On a enquêté sur certains. Il y avait des rumeurs, des gens qui téléphonaient. Oui, bon, on pense qu'il y avait peut-être un tel individu impliqué, tel individu. Vous devriez surveiller un petit groupe de communistes. J'ai entendu des communistes à Dallas, dans un café, parler de l'assassinat du président. Donc, les services de renseignement étaient au courant de toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Ils ont enquêté sur plein de gens, mais tout ça a toujours conduit à un cul-de-sac et jamais cette théorie du complot n'a jamais été étayée d'aucune façon, si ce n'est des spéculations sur l'angle de tir, la vitesse des balles, la possibilité de tirer, de ne pas tirer, la tête de Kennedy qui bouge vers la gauche, qui bouge vers la droite, les mains au cou, les mains pas au cou. Finalement, c'est des spéculations. Il n'y a rien qui est étayé de manière soutenue et tous les documents maintenant accessibles ne vont jamais dans le sens de la théorie du complot. Donc, je peux comprendre que des gens continuent d'alimenter ou de s'alimenter à la théorie du complot. Je comprends que des gens puissent la favoriser plus que d'autres hypothèses. C'est leur choix. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais sur le plan journalistique, il faut quand même se rendre à l'évidence. Tous ces arguments, toutes ces discussions à propos des théories du complot, dans le cas de la mort du président Kennedy, ne vont strictement nulle part.
Mais chaque fois
c'est
que...
nous amis.
Oui.
Oui.
Mais j'allais dire, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui semble tellement invraisemblable, comme l'assassinat de Kennedy, que ça prenait tellement de précision et que le type était seul, ça semble tellement invraisemblable que ça alimente après ça.
Mais moi, je te dirais, Nick, permets-moi de te dire que moi, je suis pas un chasseur, je suis pas un spécialiste des armes à feu, rien de ça. Mais pour avoir enquêté assez profondément sur l'affaire Kennedy, je me suis rendu à plusieurs reprises à Dallas. J'ai même eu une autorisation pour aller à l'endroit où se trouvait Lee Harvey Oswald, parce que les gens qui nous écoutent, qui ont visité les lieux, lorsqu'on arrive au sixième étage du fameux dépôt de livres, on a reconstitué l'environnement. Hein? Il y a les cartons de livres, etc. Et de la fenêtre où se tenait Lee Harvey Oswald, on a placé des cartons, on montre l'endroit où lui s'était accroupi derrière la fenêtre. Et tout ça est entouré comme d'une espèce de paroi en plexiglas pour ne pas qu'on puisse déranger cette espèce de mise en scène hein, qu'on nous présente pour nous montrer l'endroit où Oswald se tenait. Et moi, ben, à un moment donné, alors que je tournais une série documentaire, on m'a autorisé à aller à l'endroit, on a ouvert le panneau de plexiglas, puis je me suis mis exactement agenouillé, exactement à l'endroit où, en théorie, se tenait Lee Harvey Oswald. Et ce qui m'a frappé, puis je le dis tout humblement, là, ce qui m'a frappé, c'est la proximité des lieux. Sur la chaussée, là où se trouvait la limousine présidentielle, on a peint un X qui nous montre l'endroit où le coup fatidique est arrivé. Donc, tu comprends que derrière ma fenêtre du dépôt de livres, me tenant là où Oswald se tenait, je voyais la rue devant moi, puis je voyais le X sur l'asphalte. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression, quand on voit des documentaires ou des films, on a l'impression que c'est très éloigné. Et puis que là, il fallait un tireur d'élite absolument extraordinaire pour réussir un coup comme celui-là. Alors qu'en réalité, moi, quand j'étais derrière la fenêtre, puis je le dis là, humblement, puis je me suis dit, moi, là, si j'avais une carabine, là, ben, je serais capable de tirer quelqu'un.
OK, donc...
La distance est si proche là, que j'aurais réussi à tirer quelqu'un. Tu sais, je veux dire... Et Lee Harvey Oswald, contrairement à ce que disent les théoriciens du complot, on a tendance à toujours dire « Oui, mais c'était pas un tireur d'élite. Mm-hmm. » C'est vrai que c'était pas un tireur d'élite. Il l'avait pas reçu durant sa formation militaire ou durant son temps de réserve dans l'armée. Il n'avait pas obtenu cette mention de tireur d'élite. Mais quand on regarde ses fiches de tireur, hein, de militaire, on s'aperçoit qu'il faisait très, très bien. C'était peut-être pas un tireur d'élite, mais c'était un excellent tireur. Ça, les fiches montrent très clairement que il était très habile au tir à l'arme à feu. Donc, pour atteindre le président, l'endroit où on se trouve, là, derrière cette fenêtre du dépôt de livres, ben, sans être un tireur d'élite, un bon tireur aurait sans aucun doute réussi à atteindre... Ah oui, il pouvait certainement le faire. C'est sûr que la chance l'a peut-être aidé un peu. Hein? À un moment donné, souvent, il faut toujours considérer qu'il y a un élément de chance. Et on sait, bon, sur le premier tir, on croit qu'il a atteint... juste à l'endroit où la limousine passait, il y a un... il y a un feu de circulation qui est là. Donc, une espèce de poteau dont un bras se prolonge au-dessus de la chaussée. On pense que la première balle qu'il a tirée a dû atteindre ce poteau-là. La balle s'est peut-être fragmentée parce qu'on sait qu'il y a un individu qui se trouvait de l'autre côté de la rue qui disait avoir reçu comme un petit éclat, comme un éclat de briques ou un éclat de ciment. On croit que la balle s'est fragmentée, mais elle était frappée comme... il y avait comme un viaduc. La balle, le morceau de la balle aurait pu frapper un morceau du viaduc, puis le type a reçu un éclat de ciment. Donc, mais cette première balle-là n'atteint pas le président. Il va atteindre le président au deuxième coup de feu, la balle qui l'atteint à la gorge, et ensuite, c'est la troisième balle, la balle mortelle, qui l'atteint à la tête. Mais bon, on pourrait longuement parler. Hein. Je pense qu'on a fait des séries complètes sur l'assassinat du président Kennedy. On pourrait réunir des historiens autour de la table, puis en discuter longuement, ce qui n'était pas notre propos de ce soir, mais bon, on a un peu dérivé.
Mais
on va prendre une pause,
absolument,
si tu veux,
puis
après la pause, on va parler de nos fameux quatre types d'extraterrestres. Si
on va y revenir. Bougez pas. Vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On revient après ceci.
Radio X-Files
avec Christian Page.
Radio X. Ouellette. En direct.
C'est le temps d'une paix. Comment il s'appelait le gars, là?
Ticoun.
Ouais.
On n'est pas des ticouns. On est des grands couns.
Gor, gor, so mon ticoun, gor, mon ticoun. On a un bon vin américain. Mais non, jette pas ça, ce vin-là, ticoun. Jette pas ça dans la rivière, ticoun.
Ménage à trois.
Ouellette. En direct.
Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Présenté par l'Entrepôt de la Renault. Pour vos Renault au meilleur prix, on vous attend au 9300 rue John Simons, Québec et rue Jean H. Kruger, Trois-Rivières. Entrepôtdelarenault.com.
C'est l'événement Prenez la route Hyundai. Profitez d'un taux de financement à partir de 0% et jusqu'à 11 000 $ en rabais sur la IONIQ 6 2025. Plus, du 20 août au 2 septembre, obtenez jusqu'à 750 $ de rabais supplémentaires sur véhicules sélectionnés pendant l'événement Montez en gamme. Ça fait beaucoup de bonnes raisons de visiter un concessionnaire Hyundai. Genre, beaucoup, beaucoup. Des conditions s'appliquent. Le prix comprend le rabais provincial. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
L'ultime repas à $13,50 est de retour chez Ashton. Pour un temps limité, profitez d'un Burger Ashton, une bébé poutine et une boisson 16 onces. Un régal assuré. L'ultime repas à $13,50. Faites vite. Ashton, frais, vrai.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la liquidation de fin de saison. Profitez de rabais allant jusqu'à 40% sur l'équipement d'été sélectionné, tels que les vélos et les articles de camping. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
C'est la vente top chrono chez Trévis Québec et Trévis Lévis. Piscine hors terre à partir de $2,399. Piscine de béton à partir de $23,999. Profitez aussi de jusqu'à 50% de rabais sur tout le mobilier de jardin et économisez jusqu'à $5,000 sur nos spas et jusqu'à $7,000 sur les spas de nage. Et le meilleur, votre piscine hors terre est installée en seulement 3 jours ouvrables suivant la livraison. Trévis Québec et Trévis Lévis, c'est maintenant ou jamais. Détails en magasin.
Cette semaine chez Métro, c'est la grande vente Wattatow. Ça veut dire que les prix sont capotés. Le rôti français non bardé est à 5,97 la livre ou 13,16 le kilo. Les fraises du Québec au format 750 ml sont à 2,44. Et la pizza croûte mince restaurante est à 3,47.
Wow, c'est écœurant. Hein?
On se retrouve chez Métro pour faire des économies en Wattatow. Consultez toute la circulaire sur metro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Comme spécialiste en exploitation minière, en construction et en foresterie, nous avons le sens de la performance. Comme la performance que nous réalisons ensemble. Équipement SMS est bien plus qu'un distributeur de marques réputées comme Komatsu. Nous mettons notre expertise et nos technologies de pointe à votre service, jour après jour. Car avec le bon partenariat, tout est possible. Équipement SMS, partenaire de vos possibilités. Découvrez les possibilités à équipementsms.com.
Salut, c'est moi, ton sommeil. Écoute, je profite de la pub de Dormez-vous parce qu'il faut absolument que je te dise que je m'ennuie. Je m'ennuie de nous, je m'ennuie de nos dodos, des marathons qu'on se faisait quand t'étais bébé, des grasses après-midi de ton adolescence. Maintenant, là, tu travailles tard, tu sors tard. Puis, tu sais que tout ça, ça va te rattraper un jour quand tu vas t'endormir puis baver un petit peu sur l'épaule de ton voisin d'autobus. Ah, ça faisait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait tellement de bien, merci, Dormez-vous. Ça me donne envie de chanter. Ah, oh, puis j'y vais.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca.
Ça part vite. Très vite. Alfa Romeo de Québec lance son offre « Premier arrivé, premier comblé ». Des Stelvio 9 ou des modes d'édition précédente et des Tonale hybrides au même prix. 49 800 $ tant qu'il y en aura. En prime, plusieurs Tonale PHEV à 0% jusqu'à 84 mois. Deux VUS d'une marque légendaire, fabriqués en Italie, à un seul bas prix. Le vôtre vous attend. Chez Alfa Romeo de Québec, boulevard Sainte-Anne, à une minute des chutes.
Capsule.
Radio.
Latitude Massothérapie, c'est des massothérapeutes ayant en moyenne 1000 heures de formation chacun qui vous offre plus de 19 techniques. Envie d'un massage sportif suédois, besoin de relaxer, optimiser votre santé et votre équilibre, prenez rendez-vous en ligne au attitudemassothérapie.com. La Grande Foire de Québec est enfin de retour du 20 au 24 août sur le terrain d'Exposité pour une foule de manèges pour toute la famille, jeux d'adresse, resto, bingo et animation. La plus grande foire de la région cette année. Détails et heures d'ouverture au bosscarnaval.com. Pourquoi payer cher pour un site web avec québecaide.ca? Affichons l'entreprise de service pour une fraction du prix. Ajoutez photos, tarifs, infos de contact et plus. Un mois d'essai gratuit et abonnement ultra abordable, québecaide.ca. Massoif.com, c'est le plus grand choix de bière locale disponible en ligne au massoif.com et en boutique dans les locaux de Viande Pépé Allé sur le boulevard Wilfrid Hamel. Offrez-vous une expérience unique grâce aux meilleures bières d'ici. Massoif.com, en ligne et chez Viande Pépé Allé.
This is not a test.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X. Si jamais vous voulez réagir, vous pouvez le faire en tout temps via la messagerie. C'est le 88-670-9098. Bon, on disait au début de l'émission qu'on allait parler d'OVNI, entre autres, mais d'extraterrestres aussi. On a fait une petite courbe en parlant de l'assassinat de JFK, mais on y revient aux OVNI, là.
Parfait. Donc, en fait, ce que je voulais mettre en place, c'est un peu cette volonté de la part de l'administration Trump de rendre public certains dossiers, et dans le prolongement de cette mise en place, ben, il y a ces rencontres au Congrès sur la question des ovnis qui avaient été instaurées sous l'administration Biden d'abord et qui se poursuivent maintenant sous la présidence de Donald Trump. Ce qui est quand même intéressant de mentionner, c'est qu'au début, lorsque ces commissions ont débuté, en 2022-2023, les deux premières ont fait l'objet d'énormément de couverture médiatique. Hein. C'était la première fois qu'on discutait d'OVNI depuis 50-60 ans au Congrès américain. Puis là, on s'est dit, waouh, c'est vraiment spectaculaire. C'était comme une espèce de moment charnière. Et moi, je me rappelle, en 2022, là, quand ces premières auditions-là ont lieu, dans les communautés ufologiques, hein, les amateurs d'OVNI, dans les groupes d'amateurs d'OVNI, et qui parmi les plus zélés, là, il y avait des gens qui disaient « Demain sera un autre, on va se lever sous un autre jour. » Tu sais, tu comprends, il y aura le jour 1, puis c'est demain, c'est la révélation. Puis bon, évidemment, tu as bien compris que c'est jamais arrivé. Non seulement c'est jamais arrivé, mais savais-tu qu'il y a à peu près un mois, de telles auditions ont eu lieu au Congrès américain? Tu ne le savais probablement pas parce que la presse est désintéressée de ces réunions-là complètement. Et la raison, ben, peut-être parce que depuis le tout début, on s'attendait à avoir des gens qui viendraient présenter des dossiers étoffés, solides. Et là, ce à quoi on assiste, on a cette poignée d'élus du Congrès, là, cette dizaine de personnes qui... Puis là, ça, je sais que les gens pourront toujours un peu me taxer d'être un sceptique, mais... Quand on regarde essentiellement sur le plan journalistique, on voit, là, on a une réunion d'une dizaine de personnes. Le discours de ces gens-là est très orienté extraterrestre. On voit qu'on a sélectionné des gens qui ont déjà un parti pris, qui sont donc pour la plupart persuadés qu'on est visité par des extraterrestres. Certains d'entre eux tiennent même des discours qui sont plutôt fantaisistes, comme Mme Luna, j'y reviendrai. Donc, c'est des discours, mais je dis fantaisistes, je pèse mes mots, là, je serais même tenté de dire complètement déjanté. Là. À des moments donnés, c'est de la science-fiction, ça, là. Et là, ensuite de ça, non seulement t'as ces gens-là, t'as une espèce d'échange entre eux et des sonneurs d'alerte. Hein, c'est ça, leur vedette. Leur vedette, c'est des sonneurs d'alerte qui tiennent des discours fantaisistes. Aucun d'entre eux n'apporte jamais la moindre preuve. C'est toujours « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a connu quelqu'un ». J'en ai un peu parlé la semaine dernière. Oui. Peut-être que certains de ces discours-là sont, comment je pourrais dire, honnêtes, mais qui sont mal interprétés. Hein. J'ai expliqué la semaine dernière qu'il y avait eu un projet, par exemple, le projet Moondust, dans les années 60, qui servait à qui avait pour mandat de récupérer des engins soviétiques spatiaux qui risquaient de tomber aux États-Unis. Donc, il est possible que quelqu'un ait capté une phrase ou quelqu'un ait dit « Moi, dans les années 60, j'ai travaillé un programme pour récupérer des vaisseaux spatiaux. » Et cette personne-là a conclu que les vaisseaux spatiaux devaient être des vaisseaux spatiaux extraterrestres, alors qu'en réalité, c'était des vaisseaux russes. Donc, tu vois, il y a tout un travail d'interprétation. Mais néanmoins, les sonneurs d'alerte qui se retrouvent devant ces élus du Congrès, encore une fois, une dizaine d'élus du Congrès, plutôt orientés extraterrestres, tiennent des discours qui sont tout à fait déjantés. C'est « je connais un homme qui connaît un homme qui connaît un homme ». Pour la plupart, je fais l'exception, par exemple, de deux ou trois intervenants, des sonneurs d'alerte qui se sont présentés, des gens correct, mais qui parlent, par exemple, de leur expérience. J'ai vu un OVNI, un pilote, par exemple, David Fravor, j'ai vu un OVNI de type tic-tac en 2004. Bon, Fravor n'est pas un individu déjanté, c'est pas un illuminé, mais il raconte une expérience qui, au moment où il la raconte, elle est déjà vieille de 20 ans, il n'y a pas de document autour de ça, il y a son observation. Alors, quand il dit il n'y avait pas d'aile, il n'y avait pas de système de propulsion, il serait plus juste de dire « je n'ai pas vu de système de propulsion, puis je n'ai pas vu d'elle », parce que c'est son témoignage. Donc, le fait qu'il n'en ait pas vu ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Là. On sait que le témoignage humain, il est particulièrement fragile. Néanmoins, de façon générale, on a beaucoup de gens qui tiennent des discours qui sont un peu fantaisistes. Oui, je connais quelqu'un qui me dit qu'il connaissait quelqu'un qui faisait de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes pour récupérer des morceaux puis les appliquer. Puis là, un autre qui dit, moi, j'ai fait partie d'un programme secret où on parlait avec des extraterrestres venus d'une autre dimension puis on a récupéré une soucoupe volante. Des discours, là, mais complètement déjantés.
Ça fait très film de science-fiction. Là.
Tout à fait. Et là, on a ces élus-là du Congrès qui écoutent ces témoignages-là et qui font preuve d'une espèce d'aplaventrisme tout à fait inqualifiable. C'est des béni-oui-oui, c'est oui, ils hochent la tête. Puis quand on pose des questions, alors que tu t'entendrais à une question qui soit pertinente, du genre, OK, qui est l'auteur de cette information, d'où vient l'information, ils se contentent de réponses qui sont assez évasives, hein? J'ai l'information, mais je ne peux pas la dire ici au Congrès. Je pourrais peut-être vous la dire en secret, cachée derrière une porte dans le confessionnal. Et ou bien c'est quelqu'un qui me dit ça, à qui j'ai confiance. Et les élus acceptent ces explications-là sans rechigner. On ne se pose pas cette question, okay. On accepte ça. C'est un peu aberrant, mm-hmm. cette connivence qu'il y a entre à la fois ces... Alors qu'on se dit, ben là, écoute, on devrait poser des questions plus solides. Où sont les preuves? On n'en a pas. Et là, dans le cas des deux premières auditions, je ne sais pas maintenant comment que ça se passe, mais dans le cas des deux premières auditions, le Congrès s'est tourné vers cet organisme dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, là, ce fameux ARO, le Bureau d'identification des anomalies en tous les domaines, qui lui est un véritable organisme étatique du département de la Défense. Le Congrès s'est tourné vers eux en disant « Oui, on a un sonneur d'alerte qui nous dit qu'il connaît quelqu'un, qui a travaillé avec quelqu'un, qui travaillait avec quelqu'un d'autre, qui lui travaillait dans la compagnie Lockheed Martin, puis il faisait de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes. » La rétro-ingénierie, c'est déconstruire un objet pour voir comment il fonctionne, pour voir si on ne peut pas appliquer cette technologie à de la technologie domestique. De toi à moi, là, prenons une seconde. Là. À quoi ça servirait de faire de la rétro-ingénierie sur un engin extraterrestre qui aurait 100 000 ans d'avance sur nous? C'est un peu comme si moi, je prenais mon téléphone puis je réussissais à l'envoyer à la cour de Louis XIV. Je peux t'assurer que tous les génies de Louis XIV auraient beau démonter mon téléphone, le regarder dans tous les sens, ils ne tireront jamais aucune information qualitative de mon téléphone portable.
Ils ne comprendraient rien, en fait.
Absolument. On ne sait même pas ce que c'est. Là. Donc, la rétro-ingénierie, ça fonctionne dans la mesure où on parle d'une technologie qui est semblable ou similaire. Hein. Bon, si les Américains mettent la main sur un MiG soviétique, ce qu'ils ont fait durant la guerre froide, ce MiG soviétique a été transporté dans la fameuse base de la zone 51. On l'a déconstruit pour voir quelle était la technologie soviétique dans le domaine des aéronefs, de l'aéronautique, pour voir si les Soviétiques avaient un pas d'avance sur l'avionique américain pour voir si on ne pouvait pas tirer des éléments de ça. Ça fonctionne. Mais si je te mets entre les mains un objet qui a 100 000 ans d'avance sur nous, c'est comme si un membre de la cour de Louis XIV passait une journée avec mon téléphone portable entre les mains, il n'arrivera jamais à comprendre ce que c'est.
Absolument.
Donc on a ces discours-là qui sont un peu invraisemblables. Et dans le cas des deux ou trois premières réunions au Congrès, le Congrès s'est tourné. Quand je dis le Congrès, on s'entend bien. Là, c'est toujours ma dizaine de personnes, hein, sur mon fameux petit groupe. Là, déjà. Donc, eux se tournent puis demandent aux gens de là-haut, oui, voici ce qu'on a obtenu durant ces auditions. Est-ce que vous avez une information à propos de ça? Et l'exercice a été fait. Et Laro, elle, quand elle a regardé de son côté, je te rappelle que c'est un organisme étatique, là, officiel. Ils se sont tournés, sont allés voir McDonnell Douglas, sont allés voir Lockheed Martin, sont allés voir le Skunk Group. Ils sont revenus les mains vides en disant non. Cette information-là est fausse. Il n'y a pas personne qui est chez Lockheed Martin qui travaille à déconstruire des soucoupes volantes. Donc, on ne sait pas d'où vient cette information-là. On ne sait pas votre sonneur d'alerte d'où il tient ça. Mais finalement, ça mène nulle part. Puis là, évidemment, si tu veux croire aux théories du complot, tu vas dire, ah oui, mais tu sais, il ne faut pas croire Laro. Il faut croire le gars qui vient, le gars qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui est venu dire ça. Ben et c'est pourquoi je dirais qu'au cours des dernières auditions, il y a eu un désintéressement total des médias américains autour de ça. Ça n'intéresse pas. C'est des gens qui viennent, des coucous, ayons pas peur des mots, c'est des coucous qui viennent raconter des histoires. Et là, on a 10 personnes, 20 personnes du Congrès américain qui écoutent ça en se frottant les mains et en disant oui, ça doit être vrai. Donc, c'est ce qui nous amène à nos fameux 4 types d'extraterrestres. Ouais. Lors de la dernière audition qui s'est déroulée il y a à peu près un mois, on a un type qui s'appelle Eric Davis, qui est un astrophysicien qui a reçu son diplôme officiel de l'Université de l'Arizona en 1991. Puis là, encore une fois, il faut faire attention parce que ici, c'est le billet d'autorité. Hein? Le gars, il a un diplôme, donc ce qu'il doit dire doit être vrai. Non. C'est pas parce que tu as un diplôme en physique ou un diplôme en histoire que tu peux pas dire des bêtises. Hein? Les livres sont pleins de gens qui ont des diplômes qui disent des bêtises. Donc, ce fameux Eric Davis, il faut quand même le dire, c'est un personnage un peu louche. Il est associé à toutes sortes d'affaires étranges. Notamment, il a prétendu qu'il avait eu une rencontre avec un amiral de l'armée américaine qui était un des directeurs de, je pense, de la NSA ou de la CIA. Puis là, il disait qu'il avait eu des confidences de l'amiral en question à propos des ovnis, ce que l'amiral en question a complètement démenti. J'ai jamais rencontré ce gars-là. J'ai jamais donné d'entrevue. J'ai jamais eu accès à une soucoupe volante. Donc, c'est un peu louche. Et ce même Eric Davis aussi a été associé. Je ne veux pas, parce que ça serait beaucoup trop long de raconter ça, mais entre 2008 à peu près et 2012, le gouvernement américain, qui en théorie ne s'intéressait plus aux ovnis, a quand même investi des sommes d'argent pour enquêter, puis des sommes d'argent qui ont été un peu détournées. Hein. C'est un peu, comme on peut voir un peu la commission actuellement qui a lieu au Québec, là, la commission sur le galant, tu sais, les gens sont pas au courant de tout, puis là, on voit que beaucoup de gens ont signé des chèques sans savoir ce qu'ils signaient, tu sais, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, entre 2008-2012, il y a le gouvernement américain, ont entendu parler qu'il y avait des gens qui voulaient s'intéresser à des technologies de pointe, puis ils ont demandé de l'argent pour financer ça, puis finalement, il y a quelqu'un quelque part qui a dit oui, qui a signé des chèques pendant 4 ans, et puis il a envoyé ça pour étudier des technologies de pointe. Ce que l'on sait maintenant, c'est que c'était une façade. Parce que ces fameuses technologies de pointe, oui, il y a eu des documents qui ont été rédigés, mais tout ça atterrissait finalement dans les poches d'un milliardaire américain qui s'appelle Robert Bigelow, de Bigelow Aerospace, qui était propriétaire d'un ranch, qui est le Skinwalker Ranch, dans l'Utah. Et là, on dit qu'il y a des loups-garous, puis il y a des fantômes, puis il y a des extraterrestres, puis il y a toutes sortes de patentes, puis il y a même une série à Historia qui joue, là, le secret de Skinwalker Ranch, qui est d'une absurdité là, complètement déconcertante. Mais néanmoins, et là, quand on s'est aperçu, après 4 ans à donner des chèques, on s'est aperçu qu'on enquêtait sur des loups-garous, tu peux comprendre qu'on a fermé le robinet.
J'imagine.
Et parmi les gens qui étaient autour de Robert Bigelow, hein, qui profitaient de ces sommes d'argent, puis qui finalement écrivaient du grand n'importe quoi pour satisfaire aux exigences du... Fallait bien remettre un document de temps en temps au département de la Défense pour justifier le salaire. Donc, il y avait ce fameux Eric Davis qui a écrit des absurdités totales sur les trous de verre, le voyage spatio-temporel, la téléportation, comment allonger son pénis, n'importe quoi. C'était important, c'était d'écrire des patates. De tout. Et ce fameux Eric Davis était au nombre de ceux qui ont été interrogés lors de la dernière audition au Congrès. Et ce type-là dit... je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont été en contact avec des extraterrestres. Et là, il affirme, haut et fort, qu'il y aurait 4 types d'extraterrestres qui vivraient parmi nous. Il y a les gris, hein, des petits gris, ça c'est les fameux... C'est l'extraterrestre le plus populaire. Là. Quand tu vois dans les films, là, hein, créature, un peu le visage en poire avec des grands yeux étirés, là, ça c'est le petit gris. Et puis ensuite, il dit, il y a les Nordiques. Les Nordiques, ça, c'est des créatures extraterrestres, mais qui ressemblent à des Suédois.
Ah. Bon,
donc, okay. des grands blonds de style suédois. Moi, je préfère les Nordiques
Oui,
une belle grande Suédoise, on a bien compris, la belle Suédoise. Bon, on a les Nordiques. Et ensuite, on a, et ne pas confondre avec les Nordiques de Québec, parce que des Nordiques à Québec, vous en avez pas. Cela étant dit, c'est ma petite pointe de Montréalais. Et okay. Ensuite, il y a la créature, les insectoïdes. Hein. Les insectoïdes, eux, ressemblent un peu à des mantes religieuses. C'est des extraterrestres de style mantes religieuses. Et ensuite, on a les reptiliens. Les reptiliens, ben, comme le dit le mot, hein, c'est des créatures dont les têtes ressemblent un peu à des lézards. Donc, on a ces 4 créatures, ces 4 communautés d'extraterrestres, toujours selon les propos de ce fameux Eric Davis. Donc, on a ces 4 créatures. Et ces créatures, ce sont elles qui piloteraient les fameux ovnis, hein, les engins qui sont rapportés, qu'on appelait jadis les ovnis, et plus vieillottement, les soucoupes volantes. Évidemment, tu dis, c'est quand même étrange, hein, parce qu'aujourd'hui, on a un peu dépassé ça. Les extraterrestres, on est en train de dépasser les extraterrestres, parce que la NASA, je te dis ça comme ça de toi à moi, là, mais la NASA a quand même compris que si on veut explorer des mondes lointains, c'est beaucoup moins coûteux d'envoyer des sondes sans personne dedans. Hein? Actuellement, on a une planète comme la planète Mars. Il y a 5-6 robots qui se sont posés sur Mars au cours des 20 dernières années. Il n'y a pas personne là. Il y a des sondes, des vaisseaux. Parmi ces sondes, on pense à Curiosity ou on pense aux autres sondes martiennes qui nous envoient tous les jours des images du paysage martien comme si on y était. Puis il n'y a pas personne à bord. Hein? On a compris ça. Ouais. On se prépare à envoyer des sondes vers Jupiter ou vers Saturne. On veut d'ailleurs envoyer une sonde pour étudier la possibilité de vie sur un satellite autour de Saturne qui s'appelle Encelade. Crois-moi, il n'y aura pas un petit bonhomme à bord qui tient des commandes. Hein? Bon.
Ben non.
Et donc, on a compris ça. C'est quand même curieux que les extraterrestres n'ont pas encore compris ça. T'sais, veux dire, on s'attendrait à ce que les extraterrestres très avancés envoient des vaisseaux vers la... Si les extraterrestres nous découvrent, puis s'ils ont envie d'explorer notre monde, ben on devrait s'attendre à voir plein de sondes extraterrestres, mais c'est pas ça, on voit des vaisseaux avec du monde dedans. C'est quand même un peu étrange. Mais néanmoins, c'est ce que le discours que tient ce fameux Eric Davis, et tu comprends que c'est un discours qui est tellement déjanté que, mis à part ce petit groupe de gens au sein du Congrès américain qui ont tous un discours de béni oui, puis oui, on croit aux extraterrestres, ben, il n'y a pas personne qui prend ça au sérieux. Fait que tu comprends qu'il y a un désintéressement aussi de la part des médias. Il y a peut-être la poignée des ufologues, là, mordicus, qui croient à n'importe quoi, qui eux disent « Ah, quelle révélation, c'est fantastique, le jour de la révélation est pour demain. » Mais moi, je te rappellerai que quand j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis en 1976, la première chose que me dit le groupe d'ufologues à quel je me suis joint, c'est « Bravo, Christian, t'as fait le bon choix, la révélation est pour bientôt. »
OK, en 1976.
En 1976, on me disait ça. Puis là, bon, aujourd'hui, en 2025, je vois le même discours chez les amateurs d'OVNI. La révélation est pour bientôt. Mais je pense que pour bientôt, c'est assez élastique. Donc ça, c'est le discours qui est un des discours qui a été entendu lors de la dernière réunion du Congrès. Les médias n'en ont à peu près pas parlé. Mais je voulais en parler, moi, pour que les gens comprennent que on n'est pas nécessairement dans les eaux les plus sérieuses avec des discours comme ceux-là. Mais... Et crois-le ou non...
Oui.
Je sais pas combien de temps il me reste. Là.
À peu près une dizaine de minutes.
Ouais, dans la même foulée. Là, il y a eu ça. Mais Mme Luna, dont je t'ai parlé au début de l'émission, ouais. Anna Paulina Luna, qui représente ce House Oversight Task Force, évidemment, elle fait partie de ce comité du Congrès qui écoute ces amateurs d'OVNI. Et je dois t'avouer que la première fois que, lors de la première réunion, on est en 2022 à peu près, j'ai regardé, c'était diffusé en direct sur la chaîne du Congrès américain, j'ai regardé en direct les 4 ou 5 heures de ces débats-là, et j'ai entendu Mme Luna, c'est la première fois que je la voyais, je ne savais pas qui elle était. J'avais vu quelques photos d'elle passer sur les médias. C'est une femme qui représente une représentante républicaine de la Floride, et elle est plutôt jolie, mais c'est une femme qui adore les armes à feu. Donc, on pourrait se faire un calendrier, on pourrait remplacer le pompier tous les mois par Mme Luna qui tient une AK-47, la semaine d'après, elle tient un bazooka. Elle est obsédée par les armes à feu. Et non seulement elle est obsédée par les armes à feu, mais en plus de ça, c'est une femme qui tient des discours qui sont un peu déjantés. C'est une femme un peu étrange. Elle s'invente des biographies à peu près toutes les semaines. Et pour te donner un exemple, à un moment donné, elle est élevée de telle façon, puis là, elle mentionne ses parents, puis après ça, c'est plus ça, puis c'est autre chose. Puis à un moment donné, bon. Sa dernière frasque, elle a raconté dans des médias que elle avait failli être violée parce qu'un homme était rentré chez elle la nuit, puis ce n'eût été l'intervention de sa colocataire et de la police. Mais la police, quand on a vérifié, il n'y a aucun rapport de police qui concerne ça. C'est des histoires inventées. Okay. La colocataire dit, il n'y a pas personne qui est rentré chez nous, il y a eu un vol un après-midi, mais on n'était pas là.
Là,
Et la dernière, sa dernière histoire, elle s'est inventée un peu une vie comme ça, et parce que ses oncles l'a dénoncé sur Facebook, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Elle invente ça complètement. Ben, elle a demandé, crois-le ou non, elle a fait une demande en justice d'éloignement, hein, un avis d'éloignement contre son oncle qui la dénonçait sur Facebook. Bon, ça nous donne un peu le profil de la dame en question. Et moi, la première fois que j'ai vu ces fameuses auditions au Congrès sur les OVNI où Mme Luna était là, je l'ai entendue à un moment donné, quand elle a eu le micro entre les mains, elle nous a sorti un paquet de bêtises sur l'incident de Roswell. Incident de Roswell, je le rappelle pour les auditeurs, 1947, un objet tombe sur un ranch dans la région de Roswell, au Nouveau-Mexique, qui va alimenter éventuellement toute une rumeur qu'on aurait récupéré un OVNI, on aurait récupéré des corps d'extraterrestres, etc. Ça fait partie du grand mythe des OVNI, l'affaire de Roswell. Et là, donc, Mme Luna nous lance ça. Visiblement, elle est convaincue que c'est vrai, qu'on a récupéré une soucoupe volante, des extraterrestres. Et dans le discours qu'elle tient, soyons sérieux, là. Elle représente un groupe qui discute des ovnis, et quand elle lance ces quelques bêtises sur Roswell, elle ne sait pas, clairement, là, elle ne sait pas qu'en 1995, le département de la Défense, la US Navy, la US Air Force en particulier, a publié un rapport de plus de 1000 pages sur l'affaire de Roswell, dans lesquels ils ont expliqué que cet objet-là était possiblement un ballon top secret, un ballon qui faisait partie d'un projet qu'on appelait le projet Mogul. Donc ce document-là a été publié en 1995 par l'US Air Force, et en 1997, l'armée a fait publier un second rapport, Roswell Case Closed, dans lequel ils expliquent que les légendes ou les histoires d'extraterrestres pourraient avoir été alimentées par des expériences menées dans les années 50 et 60 par l'armée dans cette région désertique où on utilisait des crash test dummies, des dummies anthropomorphiques qu'on a récupérés dans le désert et qui pourraient avoir alimenté certaines rumeurs.
OK.
Madame Luna, tu dis, me semble, tu sièges sur un comité où on parle d'OVNI, tu nous lances 3-4 bêtises comme ça sur Roswell, tu devrais, puis d'autant plus qu'elle a déjà été membre de l'US Air Force, tu dis, elle devrait minimalement être au courant, avant de dire des bêtises comme ça, elle devrait être au moins au courant qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées au sein de l'armée américaine, l'US Air Force, qui a un peu déboulonné cette histoire de Roswell. Ça n'empêche pas les gens d'y croire, mais t'es un élu du Congrès, t'as le droit d'y croire, là, en ta pizza, puis ta cuisinière, là, mais commencer à raconter des bêtises comme ça, assises dans d'un enceinte qui est supposée de représenter une espèce d'objectivité de la discussion qui est le Congrès américain, puis tu nous sors des bêtises comme ça, c'est un peu aberrant. Ben elle ne s'est pas arrêtée là. Le 14 août dernier, à l'émission de Joe Rogan, un très célèbre podcast américain, peut-être même le plus célèbre, le plus populaire podcast au monde, elle déclare, elle dit, durant ces fameuses fameuses réunions du Congrès, j'ai vu, évidemment, elle ne les montre pas. Encore une fois, on peut se poser la question, mais où sont les preuves? On va-tu les voir à un moment donné, ces preuves-là, après 80 ans? Là, on voudrait bien les voir. Elle dit, j'ai vu des choses que je ne peux pas parler trop, mais j'ai vu des photos qui me prouvent que il y a des extraterrestres. En fait, elle dit, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des êtres intradimensionnels ou interdimensionnels. Et là, elle dit qu'il doit y avoir des portails. Il doit y avoir des portails à travers lesquels ces êtres interdimensionnels pénètrent dans notre monde avant de retourner dans le leur. Là, tu dis, écoute.
C'est beaucoup de n'importe quoi.
Voilà. Et cette femme-là, elle est chargée par le président Trump de faire la lumière sur des théories du complot. Puis déjà, d'ailleurs, on le voit bien dans les discours, dans ses publications précédentes, avant même d'être nommée à ce poste-là, elle faisait beaucoup dans les théories du complot. Donc, ce qui change rien, là. Donc, elle se sent un peu dans son élément, la grande pourfendresse qui va révéler tous les grands complots. Mais le nombre de bêtises qu'elle est en mesure de dire lorsqu'elle s'adresse à ces sujets-là, je ne sais pas si quand elle défend les intérêts de ses électeurs, elle dit autant de bêtises, mais disons que lorsqu'il est question des ovnis, puis je pense que la question des ovnis est une question tout à fait légitime, à preuve, ça fait 50 ans que je suis dans ce domaine-là, j'en parle encore ce soir parce que je suis persuadé, c'est un sujet qui me passionne, puis je pense que c'est un sujet qui doit être adressé, puis c'est un sujet fascinant. Mais le nombre de bêtises qu'elle dit fait beaucoup plus de tort à ce sujet-là qu'autre chose.
Ça alimente encore une fois...
Elle tombe un peu dans le fond du baril. Là. Le fond du baril, tu as une espèce de gang de complotistes, de zélés, d'hurluberlus. Ben, elle tombe dans ce milieu-là et elle alimente leurs histoires. Comment veux-tu que ce sujet-là, qui est le sujet des ovnis, puisse gagner en crédulité, en notoriété?